Mais je voulais revenir peut-être sur pour insister sur les trois niveaux de la crise. Alors, il y a une crise financière, c'est évident, ça a démarré dans la sphère financière et même dans notre tout petit secteur qui s'est ensuite communiqué à l'ensemble des systèmes financiers. Mais en réalité, il faut creuser un peu. C'est-à-dire que ceux qui étaient en crise, d'une certaine manière, comme l'a montré Stéphanie dans son intervention, c'était les solutions apportées à la crise précédente, c'est-à-dire la crise qu'on a appelée la crise du Fordisme, celle du milieu des années 70. Donc on a apporté un certain nombre de réponses à cette crise, mais ces réponses n'étaient pas cohérentes, enfin il y avait des maillons faibles qui ont craqué. Alors les réponses qui avaient été apportées, enfin la manière dont fonctionnait ce capitalisme néolibéral, c'était en gros, on fait baisser les salaires, on rétablit les profits, mais bizarrement, on n'investit pas plus qu'avant, et au lieu d'investir, on distribue des dividendes. Hein. Et donc, dans la répartition des revenus, c'est un énorme transfert des salariés vers les actionnaires. Bon, et le problème que ça posait, c'était à qui on va vendre ce qu'on produit avec du profit, d'accord, mais il faut quand même le vendre. Et la finance, d'une certaine manière, a été la façon de répondre à ça. Les inégalités, mais qui étaient portées par la finance, c'est-à-dire c'est la consommation des riches qui a suppléé, enfin complété celle des salariés, parce que les riches bénéficiaient de la croissance très forte des revenus financiers. C'était le surendettement, comme on l'a dit, dans un certain nombre de pays pour les ménages, et c'était le déséquilibre Chine-États-Unis, c'est-à-dire la dynamique des États-Unis financée par le reste du monde. Bon, et donc toute la danse et la finance qui a bouché les trous. Et d'une certaine manière, c'était une fuite en avant qui peut plus, enfin qui a explosé en vol, enfin qui aurait pu exploser plus tôt d'ailleurs, mais qui a explosé en vol. Mais il y a derrière, et le point important, je crois, on était dans une période où, enfin on n'en était pas complètement sorti malheureusement, mais une période où le capitalisme faisait du profit, avait bien rétabli ses taux de profit. Bien que ce soit, il y a une controverse parmi les marxistes parce que ça les dérange que le taux de profit monte, mais il me semble que, les salariés du monde entier n'ont pas l'impression que la crise vient de ce que les capitalistes ne faisaient pas assez de profit. Bon. Mais la bizarrerie et le côté vraiment inédit de la chose, c'est que ce profit n'était pas accumulé, n'était pas investi. Hein, or Marx, pour Marx, accumuler, c'est la loi du prophète, disait-il. Et je pense que c'est un symptôme extrêmement important d'une crise beaucoup plus profonde qu'on pourrait appeler la crise du mode de satisfaction des besoins sociaux. C'est-à-dire, en gros, on préfère distribuer des dividendes parce que répondre aux besoins sociaux, c'est pas rentable. Hein, et donc, c'est quelque chose, bon, je veux dire, quand les gens achètent des bagnoles, on leur fait une prime pour être sûr qu'ils en achètent, mais la santé, l'éducation, tout ça c'est trop cher, parce que c'est pas rentable, sauf si on arrive à la privatiser, évidemment. Et donc il y a une espèce de déni de satisfaction des besoins sociaux s'ils ne remplissent pas un certain nombre de conditions. Or, majoritairement, maintenant, les besoins sociaux ne sont pas adéquats à cette logique de profit du capitalisme. Donc, mieux vaut ne pas satisfaire les besoins que de les satisfaire avec un taux de profit réduit. Bon. Et on peut dire ça de la même manière, je ne vais pas faire disputer si je ne parle pas des défis environnementaux, mais d'une certaine manière, c'est la même chose. Les réponses capitalistes, marchandes aux problèmes écologiques, c'est on va les traiter si c'est rentable. Et puis les secteurs qui pensent que les mesures écologiques seraient défavorables font du lobby contre ces mesures, etc. Donc, mais c'est encore une fois, le critère n'est pas de faire baisser les émissions de CO2, le critère c'est éventuellement de faire du fric sur les secteurs que ça peut être intéressé. Donc le capitalisme vert est par nature extrêmement réduit. Alors on est, il me semble, dans une impasse qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Un, le retour au keynésianisme, pour les raisons que Pedro notamment a invoquées, est impossible. Bon, et d'abord, ils ne veulent pas, ils résistent à ça. Enfin, regardez en France, les salaires sont gelés, les budgets vont être réduits, mais les dividendes sont repartis après avoir un peu fléchi en 2009. C'est-à-dire, ça recommence comme en 40. Donc, une résistance, y compris sociale, de ce côté-là. Deux, d'une certaine manière, je crois que le problème, c'est qu'on peut faire, le capitalisme néolibéral, avec ses règles du jeu, enfin, que j'ai évoquées rapidement, peut plus fonctionner. Bon, par exemple, Stéphanie disait l'espèce de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » entre la Chine et les États-Unis, c'est très fragile maintenant. parce que la Chine a besoin d'un développement intérieur. Il y a cette guerre des monnaies qui rend les choses extrêmement instables. Tout ça est très fragile. Donc on est dans une espèce d'impasse. On ne peut pas revenir au mode de fonctionnement du capitalisme keynésien, plus ou moins régulé, etc. Tout est fait pour faire semblant de réguler, mais tout est fait pour que ces régulations soient extrêmement limitées. Donc c'est du cosmétique parfait. Mais en même temps, le capitalisme libéral auquel on cherche à revenir ne peut plus fonctionner. Et donc on est dans une situation où forcément ça va être très... j'emploie l'expression qui est un oxymore, quoi, de régulation chaotique, parce que ça ne veut rien dire, mais enfin en même temps l'idée, c'est que ça va fonctionner en cherchant, en brinque-ballant, autour de quatre dilemmes. Alors, le premier, c'est le dilemme de la répartition. C'est-à-dire, en gros, le dilemme, soit on cherche à rétablir les profits, parce qu'évidemment, là, la crise va déchuter, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on baisse les salaires, qu'on n'en bouge plus, enfin, qu'on... Et on le voit aux États-Unis, la reprise, qui n'est pas très forte aux États-Unis, n'a pas d'équivalent dans la reprise passée. C'est-à-dire que le taux de chômage reste plombé à presque 10%. Il y a peu de création d'emplois, parce qu'on rétablit les profits avant toute chose. Bon, le cas de la France n'est pas très différent, c'est-à-dire que c'est moins marqué, dans l'ensemble de l'Union européenne, par exemple, les taux de marge des entreprises se sont rétablis, mais le taux de chômage reste bloqué. Donc voilà, premier dilemme, choix d'arbitrage entre l'emploi et les profits. Deuxièmement, la mondialisation, bon, on en a parlé, c'est l'idée, l'incertitude sur les relations entre la Chine et les États-Unis, les histoires de guerre des monnaies, je passe. Le budget, bon, c'est évident, mais en gros, ça, on peut résumer ça de manière assez grossière. On a un héritage de la crise qui n'a pas disparu. C'est-à-dire cette masse d'endettement absurde n'a pas disparu. Mais du privé, pour aller vite, des entreprises, enfin du secteur privé, ils l'ont refilé, cette patate chaude, aux États. Bon, et maintenant, la question qui n'est pas réglée, c'est qui va payer le prix de la patate chaude. Et les politiques d'austérité, ça veut dire qu'on refile les patates chaudes aux citoyens sous forme de réduction de la fonction publique, de baisse des budgets sociaux, avec des choses qui peuvent être très dures dans certains pays qui sont contre-productives. Par exemple, le Royaume-Uni, ils ont à peine commencé leur plan d'austérité que déjà le PIB a reculé. Ils trouvent ça bizarre, mais n'importe quel économiste de première année leur dirait que c'est le résultat prévisible de leur politique. Et donc, on a une vraie contradiction. Dernier dilemme ou contradiction, c'est l'Europe. Et bon, là, on pourrait développer, mais il y a un éclatement de l'Europe, en fait, parce que chaque pays, d'une certaine manière, veut tirer son épingle du jeu à sa manière, et en gros, il y a un écartèlement, sans parler des spéculations sur l'idée souveraine, il y a de fait un écartèlement entre les pays qui s'en tirent, par exemple l'Allemagne, en vendant, en exportant et en bloquant ses salaires, et en faisant plonger, en gros, les autres pays. Bon, je passe rapidement. Et sur ce point, la question, effectivement, qui est un débat qui parcourt, y compris la gauche, c'est est-ce que la sortie de l'euro est une alternative, qui a un sens par rapport à cette situation, ou bien est-ce qu'il faut aller vers intégrer, disons, dans les luttes de résistance et dans les projets alternatifs, une dimension européenne qui est une refondation de l'Europe. Parce que ce qui est en crise aussi, c'est la manière dont on a construit l'Europe. C'est-à-dire plein de gens qui ont soutenu à fond la construction européenne. C'est assez rigolo. D'ailleurs, découvrent maintenant tout ce qui manquait, etc. Et que pourtant, on avait annoncé largement pendant la campagne, au moment de la campagne du référendum. C'est par exemple, il n'y a pas de budget européen. Et donc, on ne fait pas un truc avec une monnaie unique sans qu'il y ait un budget. Tous les économistes, c'est même la théorie mainstream, dominante qui expliquait ça. Bon, et donc, tant qu'on ne refonde pas cette économie européenne, qu'il n'y ait pas des budgets, des fonds d'harmonisation, une législation commune sur la fiscalité, etc., on ne peut aller qu'à l'écartèlement qui d'ailleurs avait commencé avant la crise. Alors, conclusion, je suis allé très vite, là je suis presque en avance. Je sais que j'ai plus de 30 minutes. Donc conclusion sur les alternatives. Je pense que l'élément clé aujourd'hui, parce qu'il synthétise un peu tous ces aspects-là, c'est la question de la répartition des revenus. Hein, mais la répartition des revenus, ce n'est pas seulement salaire-profit. Il y a plusieurs éléments. Il y a un, la durée du travail, par exemple, puisque ça revient à la mode, puisque Manuel Valls a lancé une espèce d'offensive avec... mais c'est une vraie question parce que le chômage, au fond, est une question, elle a, disons, la face inversée d'une non-réduction du temps de travail, parce que et le travail qui n'est pas réduit, l'argent du travail qui n'est pas réduit, c'est les dividendes. Donc cette question est absolument liée. Le seul moyen efficace de espérer lutter contre le chômage, c'est de réduire la durée du travail et de faire payer ça en payant moins de dividendes. Bon, et donc ces questions sont absolument liées. Emploi, répartition des revenus, salaire, évidemment, et puis sur le versant public, c'est la question de la fiscalité. C'est-à-dire, tant qu'on ne fera pas payer, l'alternative qui est aussi une forme de répartition des revenus, c'est la réforme fiscale qui permet de faire payer les responsables de la crise sous des formes diverses, c'est-à-dire réforme fiscale, restructuration, pour prendre un terme neutre, de la dette, c'est-à-dire que les gens qui ont contracté des dettes en réinvestissant les cadeaux fiscaux qu'on leur faisait, et bien on dit, et bien on vous paiera pas, on vous paiera moins, etc. Disons, transitivité, c'est l'ensemble de la protection sociale. Il y a la question des retraites, il y a aussi une question de répartition des revenus, la question du financement de la santé, qui est aussi une question de financement au niveau public. Donc c'est vraiment la question clé, et je pense que il me semble qu'il y a une compréhension très large de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, les riches veulent garder le fric et faire payer la facture à l'ensemble de la société. Je pense que la perception est relativement partagée. Bon, ouais, mais ensuite, on peut en tirer des conclusions différentes. Et je crois que la vraie conclusion, c'est de montrer que ce truc-là, en plus, mène à l'impasse et qu'il faut réellement une alternative. Mais, si vous voulez, il n'y a pas d'alternative. Alors, ça ne se résume pas à ça, mais il n'y a pas d'alternative sans toucher à la répartition des revenus. C'est-à-dire, les gens qui vous disent on va lutter contre le chômage, on va défendre le modèle social, mais on touche qu'à la marge aux revenus, c'est des menteurs. Bon, la question, peut-être que c'est très difficile de bouger la répartition des revenus, parce qu'évidemment, ceux qui sont du bon côté du manche ne vont pas être d'accord. Ça, c'est un problème politique, mais l'idée qu'on peut le faire en douceur est une escroquerie intellectuelle. Et le deuxième point, c'est la dimension européenne, c'est-à-dire que tout ça doit être plongé dans un ensemble européen et qu'il faut faire naître des revendications ou des projets qui soient portés au niveau européen. Parce que c'est évident qu'aujourd'hui, tous les pays sont confrontés à des politiques qui sont semblables et que, si vous voulez, la solution de retrait de la zone euro est une illusion aussi parce qu'elle ne change pas les rapports sociaux et elle ne dit rien de ce qui serait fait. Les pays, par exemple le Royaume-Uni, enfin la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro, ça l'empêche pas de se payer des plans d'austérité, enfin des plans d'austérité les plus durs dans les pays riches de l'Union européenne. Et c'est pour ça que cette dimension-là est importante, parce qu'un certain un grand nombre de décisions et de contraintes qui pèsent sur la possibilité d'une politique économique alternative viennent, disons, de ce qui se passe au niveau européen. Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas contrôler les capitaux, qu'on ne puisse pas réglementer la finance, qu'on ne puisse pas interdire la spéculation, et que même ce sont les États, ce sont les banques centrales qui financent la spéculation contre les dettes souveraines en prêtant de l'argent à 1% pour acheter de la dette grecque à 8%. Bon, je veux dire, c'est au niveau européen qu'on peut changer ça, que se jouent les choses. C'est-à-dire, même si un pays sortait de l'euro, il pourrait prendre des mesures, mais qui seraient limitées, parce que ça n'empêcherait pas les spéculateurs de partir ailleurs. C'est pour ça que, sur ces questions de lutte contre les intérêts de la finance, maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être dommage, c'est peut-être plus difficile que dans un pays isolé, mais c'est au niveau de l'Europe que ça joue. Hein, et c'est au niveau des décisions qui sont prises en matière de réglementation, etc. Et c'est pour ça que cette dimension doit être absolument intégrée.